IDFM Radio, le média valdoisien.
Merci d'être avec nous, merci d'accueillir Guillaume, plus connu sous son nom d'artiste, Superman Lovers, bonjour.
Salut, salut, comment ça va ?
Enchanté en tout cas de vous faire découvrir l'univers de ce groupe. En fait, c'est pas un groupe, moi j'ai cru que c'était un groupe, je pense que tout le monde a cru que c'était un groupe au début des années 2000, hein, quand les Superman Lovers sont arrivés. On disait tous les Superman Lovers, on disait pas...
Mais on peut toujours continuer à dire, parce qu'en fait moi c'est un projet que je lead tout seul, en fait, Superman Lovers. Mais je travaille avec d'autres artistes sur chaque titre. Ça m'arrive de faire plein de titres tout seul. Hein, j'ai fait plein de titres tout seul, mais sous-temps, je suis pas chanteur. Donc déjà, dès qu'il y a du chant, je bosse avec des artistes différents. Et non, je suis pas chanteur.
Oh mince, c'est sur Sidelight. Sur Sidelight, c'est pas Guillaume qui chante, malheureusement. C'est Manny Hoffman.
Exactement. Et donc du coup, c'est vrai que il y a un côté donc The Super Lovers. Et puis bon, moi, ça me pose pas de problème genre du pluriel. Quand je vois à l'époque, il y avait aussi The Streets qui était au pluriel. C'était un gars tout seul aussi.
Voilà. Bon, c'est bien connu, les DJ producteurs, en règle générale, ne chantent pas. À part deux que je vais citer, qui sont français, Kungs. Je crois que Kungs chante. Martin Solveig, sûr, il chante.
Ah bon?
Oui, Martin Solveig, oui, il chante.
Moi, je fais des chœurs, hein, ça m'arrive de faire des chœurs. Mais si tu me mets en lead, je t'explose le morceau. Hein,
Bon, c'est pas grave. En tout cas, Starlight, c'est encore utilisé aujourd'hui. Il y a des nouvelles versions de la publicité aussi, des grandes marques qui ont utilisé ce morceau. Oui. Comment ça se passe justement quand on utilise ton morceau, Guillaume? Ils appellent qui? T'appelles toi directement?
Je reçois un mail en général de mon éditeur, qui est Universal Publishing, qui me dit voilà, telle marque souhaiterait utiliser Starlight pour leur nouvelle campagne. Publicitaire, ça peut être télé, ça peut être du web, ça peut être de la radio, et à partir de là, déjà, je vois si la marque me plaît, si j'ai envie d'y être associé, et puis, si c'est ok, on dit oui, et puis on s'accorde.
Bon, après, ce morceau, il peut être utilisé un petit peu par tout le monde aussi, tu fais pas forcément attention.
Alors.
Si, quand même.
Oui et non, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a des,
parce que je sais qu'il y a certains artistes.
Moi, je refuse, par exemple, toute association ou quoi que ce soit.
Ou meeting politique.
Voilà, je considère que je fais de l'entertainment, je suis là pour divertir les gens.
Oui, mais il n'y a pas des meetings politiques qui ont déjà diffusé Starlight? Non. Sûrement, peut-être.
Mais je suis pas au courant. Oui. Alors ça, tu peux pas, alors, les empêcher. Tu peux pas empêcher les gens de faire une célébration, quelle qu'elle soit, sur ta musique.
Après, le principal, c'est qu'ils payent des droits à l'assassin
voilà,
derrière.
Après, c'est une... En fait, ce qui est post-problématique, c'est quand ils en font une utilisation commerciale et qu'ils se revendiquent du titre, en fait. Là où tu te retrouves lié, en fait, à quelque chose. Alors, quand c'est une marque, bon, de consommation lambda, pour les gens normaux, ça pose pas de problème. Dès que tu rentres, après, c'est d'autres considérations. Voilà, c'est pas... Je préfère garder Starlight un peu... vierge de tout ça, que ça reste quelque chose qui, pour les gens, ça leur, ils l'identifient comme une chose de, un moment où ils vont juste oublier leurs problèmes, ils vont, voilà.
Désolé, je t'ai embarqué dans un truc. C'était pour changer un petit peu de
identifier les choses.
Starlight, gros succès, même One Republic, son leader, a revisité aussi ce morceau dernièrement. C'est une version qui date de l'année dernière.
Exactement.
Hein. Ryan
Tedder.
Merci beaucoup, le chanteur donc de One Republic, qui finalement n'a pas trop touché à la version originale. Hein.
Mais il a vachement respecté le morceau.
Alors moi, il a posé sa voix, c'est plus la voix de Manny Hoffman, bien évidemment.
Non, mais il a changé quand même un peu quelques mélodies, il a arrangé les couplets, il a rajouté un espèce de bridge dans le refrain que je trouve très très intelligent, en fait. Enfin, le truc était assez surprenant. Et ça redonnait un espèce de deuxième souffle au morceau. En tout cas, j'étais assez agréablement surpris la première fois que j'ai entendu, je m'attendais pas à quelque chose. Comme ça, puis il a été dans une ensuite quand on a bossé sur la prod ensemble, il a vachement à pousser dans le délire French Touch au niveau du son, au niveau de tout ça. Donc franchement, c'était très agréable de faire cette version.
Groupe américain One Republic, c'était un petit peu pour les 25 ans finalement du titre.
Alors
il t'a contacté de quelle manière?
Ça s'est fait d'une façon très naturelle. J'ai pas je venais de signer chez Universal, chez Polydor, pour un nouvel album.
Et qui va sortir en octobre prochain.
Tout à fait. Et en fait, le boss du label, Gwenaël, en fait, a été assez proche de Ryan Tedder. Et quand il a su que j'avais signé là-bas, il dit « Ah, j'adore Starlight et tout !» Et du coup, il a fait une version de... c'est lui qui avait proposé une version, et puis du coup, bah, elle était top, donc je dis, bah, on va en faire quelque chose. Et puis voilà, puis ça s'est fait comme ça, en fait. Quelque chose de naturel, en fait. L'avantage, c'est que ça n'a pas été forcé, en fait. Voilà.
Mais trop cool, groupe américain, quand même, One Republic.
Bah, tout à fait, oui.
Alors, même si toi, tu as propulsé quand même ce titre à l'international, hein,
ouais,
comme on l'a
à
dit.
À l'époque, oui.
À l'époque, et voilà. Puis encore aujourd'hui, voilà, ce morceau est utilisé un peu partout. Tu le joues aussi régulièrement dans tes sets, bien évidemment. Ouais. Si tu ne le joues pas, tu te reçois des pots de banane, pardon.
Ah, les cailloux, je me prends. Ah oui, je me fais caillasser, ouais.
Et à force de jouer ce morceau quand même, toi, tu le revisites, tu l'as remixé aussi?
J'ai fait, alors pas trop, j'ai fait une version qui est sortie pour le 20e anniversaire, on avait sorti un vinyle 20e anniversaire, et j'avais fait un disco edit, j'avais juste un peu changé les drums, j'avais fait une version beaucoup plus disco et plus longue, en fait, du morceau. Mais sinon, en fait, les gens, ils l'aiment tel quel, en fait. En live, au début, j'essayais de faire des versions un peu différentes et tout, puis je me suis rendu compte que le morceau était tellement iconique, en fait, que valait mieux le donner tel quel. Et c'est comme ça que les gens l'aiment, donc j'ai pas de raison au final.
Et c'est quoi ce clip vidéo un peu ovni aussi, avec ces animaux, avec une espèce de patate, un rat, je sais pas.
Ouais,
c'était des
bah,
créatures assez particulières dans le clip vidéo de Starlight.
À l'époque, on était jeunes.
Et ça se passe dans une soucoupe, je crois, les animaux, ces créatures sont dans une soucoupe, non?
C'est
non,
extraterrestre, là.
Oui, ça fait un peu.
Bah, il y avait, en fait, le
c'est la galaxie,
une patate et une souris qui font un tube, sauf que les humains, ils en ont rien à foutre, donc du coup, c'est les extraterrestres qui signent le morceau, quoi. En gros, c'est ça.
Mais ça sort d'où, cette idée, quand même?
Ouais, alors, disons qu'à
ce moment-là,
on était on marchait au plafond, quoi. Je vais pas faire un dessin. Mais du coup, on était, c'était une époque où, on était jeunes, un peu foufou, et puis du coup, disons que, on avait pas mal d'idées un peu débiles, mais j'en ai toujours, hein, des idées débiles, hein, mais je me retiens de les dire, en fait.
Mais ça a marché en tout cas avec un premier album aussi, hein, qui sort après un autre projet auparavant, parce que tu t'es pas lancé quand même avec The Superman Lovers. Il y avait eu School aussi auparavant.
Ah, il y a eu pas mal de trucs, ouais.
Avec Stéphane, c'est ça.
Ouais, avec Stéphane, avec qui je bosse toujours. D'ailleurs, sur le nouvel album, j'ai bossé avec lui encore.
Oui, mais
on a fait plein de trucs ensemble.
Oui, mais il est pas trop là au début de l'aventure de Superman Lovers.
Non, en fait, Steph, c'était mon pote d'enfance. On faisait de la zik ensemble. Lui, au début, il avait commencé à faire de la zik d'ailleurs avec Thomas Bangalter et Guyman.
Thomas Bangalter, c'est les Daft Punk,
voilà,
je le précise.
Voilà, donc lui était. Et il habitait à Suresnes, il avait une espèce de maison avec un sous-sol où il y avait et c'était blindé d'instruments. Donc j'allais là-bas, on faisait de la zik, et puis avec lui on a monté effectivement ce groupe School. Et en parallèle, moi j'avais aussi commencé à monter mon label, mon premier label qui s'appelle La Fessée Records. Et j'avais trouvé, comme je trouvais qu'il y avait beaucoup d'aristocrates dans la musique électronique française à l'époque, et comme moi j'étais pas aristocrate, je me dis je vais prendre un pseudonyme d'aristocrate,
notamment des Versaillais. Hein.
Voilà. Donc j'avais décidé, donc
la French Touch, c'est vrai que vous habitiez tous. Pas toi,
mais,
d'accord.
Mais du coup je me suis
dit les Daft Punk c'est Paris,
Versailles, il y avait R,
voilà,
Fancy, tout ça, moi, donc du coup moi j'avais décidé, j'ai changé de nom, je m'appelais Stanislas de Mareuil. Voilà, et donc je produisais des sous le pseudonyme Stanislas de Mareuil. Et c'était marrant, j'avais fait une bio un peu débile où je racontais que c'était un noble suisse qui habitait dans un château à Lausanne, dont l'activité principale était en fait les courses de whippets. Donc en fait, il élevait beaucoup de whippets, il faisait de temps en temps un peu de house, mais son activité principale c'était les whippets. Et donc du coup, c'était marrant parce que les médias à l'époque spécialisés dans l'électronique et tout relayaient ces infos, sans checker si c'était vrai ou pas, en fait. Donc je me retrouvais avec des bios du gars. Chaque fois que je sortais à vinyle le stade de Mareuil, je me retrouvais avec des bios, genre, ah ouais, l'aristo de Suisse avec ses whippets et tout. Je dis, qu'est-ce que... Et donc c'était assez rigolo. Et puis après il y avait School que j'ai fait avec Steph, ouais, exactement, qui était mon premier vrai groupe, en fait. Voilà.
Belle aventure, en tout cas.
Très chouette.
Et ça continue encore aujourd'hui.
Bah oui, parce que après Steph, lui, de toute façon, il est parti vivre en Angleterre, et lui il avait signé chez Mute, qui était le label de Depeche Mode et tout ça.
Oui.
Il a fait ça, mais sur d'autres projets, il faisait des trucs un peu trucs bizarres, néo-goth indus, tout ça et tout. Je sais pas. Et donc du coup, ouais. Et puis on s'est retrouvé sur un autre projet qui s'appelle Chuldigung qu'on avait fait ensemble en 2015. Et puis je l'ai rappelé et on s'est revu. Et puis là, pour l'album, on a composé 5 titres ensemble du nouvel album.
Cool. L'album c'est Coco Bingo en octobre a priori. Hein, sa sortie. Fait. Le morceau qui tourne, qui a été envoyé dernièrement en club, mais aussi en radio, c'est Coloqué. C'est où Canudo?
Tout à fait.
Qui est donc chanteur.
Très belle action portugaise, je veux dire.
Voilà, qui est chanteur en portugais, qui chante justement, qui est cette voix.
Alors, c'est Kai Sonnes. En fait, Kai Sonnes, c'est un chanteur anglais que j'ai rencontré. En fait, on venait de sortir la version avec Ryan Tedder de Starlight. Et lui me contacte et il me dit ouais, ah là là, j'adore et tout. Tiens, écoute ce que je fais. Et j'écoute et je trouve ça mortel. Je fais ah mais c'est moi. Et en fait donc je lui dis bah écoute j'ai des titres là, j'ai un nouvel album, j'ai plein de titres composés. Je t'envoie des maquettes, c'est moi qui chante dessus, mais voilà, on cherche justement un vrai chanteur. Et donc j'ai découvert qu'après en fait il avait gagné, je savais pas, mais le X Factor à Londres il y a plusieurs années. Et en fait c'est un chanteur qui est bah qui a son petit public en Angleterre, qui a quand même voilà qui sort pas. Excuse-moi l'expression du cul d'un loup. Enfin, il a quand même un peu sa petite notoriété là-bas. Et puis il a surtout une voix ultra pop et très funky en même temps, avec ce côté voix très pop blanche mais qui groove. Et donc bah c'était idéal pour les morceaux qu'on avait. Et donc voilà, je lui ai demandé. Et puis enfin au final il s'est retrouvé à chanter sur 4 morceaux de l'album.
Il y a l'âme finalement de ce qu'on écoutait au début des années 2000 avec The Superman
Tout
Lover, ce côté funky disco groove.
Tout à fait. Tout
parce
à fait.
Que c'était référence musicale aussi, tu as baigné un peu avec tout ça.
Alors oui, et puis surtout je sais faire que ça. En fait, j'aurais beau essayer de faire un autre style de musique, je vais toujours revenir à ce style-là, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de forcé, c'est vraiment naturel, c'est-à-dire que en fait, tu te rends compte que tu fais vraiment partie de ce mouvement, non pas parce que t'as voulu suivre un mouvement tout, c'est juste que t'en fais partie parce qu'en fait, t'as place à lier, quoi. C'est-à-dire que naturellement, tu fais ce genre de son.
Giorgio Moroder, Cerrone, tu as beaucoup écouté, ou pas?
Alors moi, j'étais plus jeune. Cerrone, ouais. Moroder, non, c'est trop froid pour moi. Quoi qu'il y ait des trucs que j'aime bien de Moroder, mais.
Bah, il a fait pas mal de. Oui, il a fait pour Donna Summer, entre autres.
Il y a des trucs que j'aime bien Donna Summer, tout, mais moi, j'ai viens vraiment d'une culture très funky. C'est que j'étais plus dans Fatback Band, dans George Clinton. J'ai commencé à écouter ce. En fait, je suis arrivé à voilà, les premières musiques quand j'avais 10-11 ans que j'ai écouté de moi-même, sans avoir mes parents derrière ça. Bah, ça a été ça. C'était vraiment du funk. Et petit à petit, j'ai vraiment poussé. Ensuite, j'ai plus bougé vers des morceaux plus de disco funk. Ce que j'appelle disco funk, c'était un peu la funk, mais qui était plus formaté pour le marché blanc à l'époque aux États-Unis. Air, Sweat and Fire, Delegation, tout ça, ces trucs-là. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que mes Moroder, oui, mais trop allemand pour moi.
On va se retrouver d'ici quelques minutes toujours avec Guillaume D. The Superman Lovers. Il sera aussi au festival Le Parc aux Étoiles à Naine-la-Vallée sur le Val d'Oise le 6 juin. On continue à échanger avec votre invité du jour aujourd'hui sur IDFM Radio et écoutons bien évidemment Coloqué, c'est où? Canudo.
Spirit in your soul. Yeah, you know. This ain't a picture, it's a future memory that's painted gold. So let it go, oh yeah. We'll be right back.
e se con nudo na chuva a osso mucha o na cama questo è sua vita avvie che nudo na chuva a osso mucha o na cama questo è sua vita avvie che nudo.
Superman Lover, c'est toujours avec vous sur IDFM Radio, c'est Guillaume. Moi, je me suis fait avoir, comme beaucoup de personnes, j'ai cru que c'était un groupe, un duo, et puis finalement, non, il fait tout seul, hein, comme un grand garçon.
Exactement.
Voilà, avec Starlight, donc on est 2001-2002, c'est ça ?
On est plus 2000-2001, en fait.
2000-2001, avec aussi un album qui sort...
En 2002.
Derrière, donc l'album The Player. Hein. On est encore sur la vague French Touch ?
Ah bah oui, complètement. En fait, l'album est sorti, l'album The Player, sorti un an après la sortie de Starlight. Et il a mis du temps à sortir, parce que je sais plus à l'époque, je sais pas quel souci avec la maison de disques, bref. Et ça a mis un peu de temps à sortir, et du coup c'était arrivé bah, au début du déclin un peu de la vague French Touch. Enfin, de la première et grosse vague pionnière, en fait, de la French Touch, mais bon, l'album, en fait, s'est installé petit à petit, et puis il y a des titres qui ont réussi à faire leur chemin. Dans d'autres pays, bizarrement. C'est qu'en Australie, par exemple, bah, mon gros tube, c'est pas Starlight, c'est Diamonds Forever.
D'accord.
Premier album. Quand même, Mine, bah, eux, ils adorent Family Business, par exemple, plutôt que Starlight. Il y a des pays comme ça où tu te retrouves à... Effectivement, avec des titres que bah tu sais pas pourquoi. Toujours comme ça, il y a souvent des pays qui piochent un titre et puis ils en amènent un autre. Enfin bon, voilà. Bon, moi, ça reste ma musique, donc je suis content de toute façon.
En tout cas, ça t'a permis de voyager énormément.
Ouais.
C'était vraiment intense sur cette période-là. Donc le distributeur, c'était BMG aussi avec l'album voilà. The Player.
Ouais.
Donc à droite à gauche, beaucoup de festivals.
Beaucoup de festivals, beaucoup de dates partout dans le monde. Puis bon, et en fait, c'est cette période, oui, mais en fait, après, j'ai toujours continué de tourner beaucoup. Et puis j'ai joué dans des, j'ai joué partout dans le monde. Quoi, je suis au Kazakhstan, en Sibérie, en Géorgie, en machin. J'ai fait beaucoup de pays assez dingos comme ça, qui sont vraiment très chouettes.
Mais qu'est-ce qui se passe finalement avec BMG ? Il te lâche parce que ça marche moins bien ?
Non, c'est pas qu'il marche moins. C'est non, le pour moi une maison de disques, ça, il y a un moment, elle y trouvait plus son compte avec Super Inverse. Moi, j'y trouvais plus mon compte. Alors, on n'était pas du tout sur le même sur la même longueur d'onde. Je pense que BMG c'était une maison de disques qui et moi j'étais en plus dans un label qui était très très mainstream, c'était Vogue qui faisait à côté de moi, il y avait Chihuahua DJ
Bobo,
DJ ouais. Bobo.
Chihuahua.
Ouais voilà, donc si tu veux tu trouves à côté de d'artistes qui font pas du tout partie de ta famille musicale et
il y avait encore cette période des tubes de l'été, donc ça c'était un gros projet
aussi. Ouais,
mais
tu te retrouves là-dedans alors qu'en fait toi t'es pas ça. Alors oui, t'as fait un tube avec Starlight, mais le reste c'est pas forcément ça. Donc tu comprends que t'as plus rien à faire là, eux ils comprennent que t'as plus rien à faire là et donc en fait on s'est quitté sans douleur, sans haine, sans amour particulier non plus, mais en tout cas ça s'est fait vraiment tranquillement et je suis parti chez les Indés, je suis retourné chez les Indés parce que avant j'étais Indé et j'ai passé 20 ans, un peu plus de 20 ans à reprendre le système D hein, comme on dit et puis par hasard par les rencontres j'ai eu l'occasion de retourner chez Universal et puis en maison disque et puis au final là c'est cool, moi je trouve ça plutôt après j'ai plus de maturité qu'avant, j'ai peut-être moins d'attente, j'ai peut-être moins d'enjeux, donc c'est il y a des enjeux, mais ce que je veux dire c'est que c'est plus détente, je suis beaucoup plus détente qu'effectivement quand j'avais 24 ans Et j'étais sur le qui-vive.
Bon, bah tant mieux, heureusement. Le dernier album en date est sorti en 2022, Body Double.
Body Double, ouais.
Ensuite, pause, sans faire forcément une pause. Il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a encore des festivals avec cet album.
Alors, Body Double sort en 2022, à la base, il devait sortir en 2020. Mais
oui,
bim,
mais
Covid.
On connaît, voilà, avec le virus.
Et donc, du coup, je me retrouve à le sortir en mai 2022.
Bon, bah, du coup, ça t'a permis de le peaufiner peut-être un peu plus. Non, tu l'as pas trop touché, non?
Pas forcément. D'accord. Non, il était prêt, il était là, c'était juste que tu trépignes, quoi. Mm.
Oui, non.
Il y a pas de club, il y a rien. Il y aura personne pour promotionner ton truc.
D'ailleurs, ça a foutu en l'air pas mal de discothèques, ça, de clubs,
ah,
hein.
Ah, bah, complètement, ouais.
On a l'impression que le milieu de la nuit, il est où?
Bah,
à Paris, c'est devenu une catastrophe, hein.
Il est plus trop là.
Sur les Champs-Élysées, il n'y a plus aucune discothèque.
Non, mais à Champs-Élysées, c'est pas pareil. C'est qu'il n'y a plus rien, à Champs-Élysées.
Oui, bah, à part le duplex et tout, mais c'est tout, mais.
D'ailleurs, pas longtemps, les Champs-Élysées. Parce que moi, franchement, c'est un truc. Les Champs-Élysées, pour moi, ça a toujours été synonyme de. Il y avait de la culture avant.
Il n'y a plus rien.
Il y avait le Virgin Megastore.
Il n'y a que des parfumeries.
Il y avait, le Queen. Il y avait les cinémas. Il y avait la Pizza Pino.
Il y avait le VIP Room aussi. Avec Jean Rock.
Exactement. Non, mais il y avait tellement de trucs, en fait, sur les. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
t'as plus de cinéma.
Bah, il y a Prada, il y a Gucci. Moi, qu'est-ce que t'en fous en fait? C'est fou, c'est devenu une tristesse, les Champs-Élysées. Moi, ça me brise le cœur à chaque fois que je vais sur les Champs. Je me sens mais orphelin.
Et puis, entre 2022 et jusqu'à aujourd'hui, à peu
2022,
près.
Alors 2022 est sorti l'album. Je le promotionne pendant un an. Il arrive fin 2023 où là j'ai juste envie d'arrêter la musique, en fait.
Ah, carrément.
Ouais, j'ai envie d'arrêter. J'étais en mode, ouais, c'est bon. Je dis à ma femme, on se barre vivre.
Une sorte de burn-out ou pas?
Non. Juste saoulé.
Non, en fait. D'accord.
Non, pas de burn-out. Je suis pas très burn-out, moi. C'est pas mon style. Mais je suis plus dans, par contre, de carte saoulée. Donc je me dis, bon, j'ai à ma femme, on part vivre à Barcelone. Donc on se loue un truc quelques mois. Et le deuxième jour où j'arrive à Barcelone, j'ai un coup de fil d'un pote, David, que je salue, qui est un ingé son, qui bossait avec plein de gens et tout. Il me dit, ouais, dis-moi, j'ai un plan, ça te brancherait pas de signer ton catalogue, tout ton catalogue chez Universal, ça. Je lui dis, bah, écoute, je sais pas, je vais te partir pour tout arrêter. Je dis, mais bon, je vais réfléchir, je te rappelle quand je rentre. Et puis donc je repasse à Paris au mois de janvier, donc c'est déjà 2 mois que j'étais parti, puis je le rappelle, puis en fait il me convainc, donc je vais faire un rendez-vous, puis ça se passe bien. Et donc je lui dis tiens, pourquoi pas, et puis de là on parle d'un nouvel album, puis pourquoi pas. Alors c'était marrant parce que bah, avec le boss de Polydor, après il me dit ouais, ça te brancherait pas un nouvel album? Je dis bah ouais grave, t'as des morceaux? Bah j'avais rien du tout, je dis ouais grave. Et du coup je rentre chez moi, j'appelle les boss, je dis bah merde les gars, j'ai rendez-vous dans 15 jours, je dois faire écouter au moins 6 nouveaux titres. Du coup bah je vais enfermer mon studio avec des potes, puis on commence le nouvel album Coco Bingo. Et c'est comme ça que en fait l'album s'est fait. Et les premiers mois étaient vraiment très cool parce que c'est toute la partie compo. Et pour moi, c'est en fait l'album s'arrête là en fait. C'est-à-dire que je trouve ça toujours tout ce qui arrive après la compo pour moi c'est de la douleur. C'est-à-dire que t'as toutes le temps de la composition, de la création qui est chambé, qui est vraiment une période je trouve un peu magique. Où tu penses pas à la production, tu penses à rien, t'es juste en mode kiff avec des potes, tu fais de la musique et il y a des trucs chouettes qui se passent et puis tu te laisses embarquer. Enfin voilà, tu crées, t'es vraiment, et c'est génial, c'est le meilleur moment. Et puis après que t'as fait les morceaux, bah là tu rentres dans une autre chose qui s'appelle la production. Et comme je suis aussi producteur, bah je dois continuer aussi cette partie-là. Et donc du coup, bah c'est plus, bah là, voilà, comment on va orienter musicalement l'album, parce que t'as des compositions, mais comment tu vas les, bah c'est dur à dire hein, le mot, mais comment tu vas les vendre, en fait. Et donc il faut que t'arrives à trouver un son qui te convienne, qui match avec qui t'es. Et puis en même temps, bah comme il faut, si tu fais un album, bah c'est aussi pour le vendre, donc t'es obligé de t'adapter un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, c'est tout un calcul. Et en fait, les gens se rendent pas compte, mais ça veut dire que bah, c'est vraiment de la production pure. C'est-à-dire que il va falloir que tu utilises pour parler aux gens, pour que les gens arrivent à catcher ta musique à un moment précis, il faut que ta musique elle soit un chouïa formatée au son du moment. Donc il faut connaître tous les synthés, tous les machins, toutes les machines pour savoir ce qu'il va falloir utiliser à ce moment-là. Mais en même temps, faut pas non plus être has-been, donc faut arriver à anticiper un peu. Enfin, c'est tout un challenge. La production, c'est vraiment un truc qui n'a aucun rapport avec la composition. J'affectionne plus la période de compo, et c'est vrai qu'après, bah, toute la période de prod, voilà, c'est tout un autre schéma, et tu rentres dans des, voilà, dans autre chose. Mais c'est super intéressant, mais j'ai plus l'impression de bosser que quand je suis dans la part compo. Voilà.
Nous sommes toujours avec Superman Lover sur IDFM Radio, et Guillaume, ça c'est ton vrai prénom. Hein.
Tout à fait.
Et un nouvel album, comme tu l'as évoqué il y a quelques instants, Coco Bingo, a priori qui sortira plutôt en octobre. Il parlera de quoi, ce sera aussi une continuité par rapport à ce que tu avais produit auparavant. On l'a dit, peut-être un retour aussi, plus ou moins aux sources, disco, funk.
Coco Bingo ne parle de rien, Coco Bingo c'est que du plaisir. C'est épicurien, c'est de l'instant exact auquel on le vit, c'est du divertissement, c'est pour danser, c'est pour oublier ses problèmes, c'est Coco Bingo, c'est tout.
Un voyage au Brésil, notamment.
Où tu veux, bon, tant que je te fais oublier tes problèmes, que ma musique, tu vois, c'est elle est là pour ça, c'est mon taf, c'est de te faire oublier tes problèmes, donc. Donc voilà, bah j'espère que le job il va être fait et que quand t'entendras ma musique, que ce soit en voiture, sous la douche, où tu veux, bah t'auras l'impression de pouvoir un peu t'évader, d'oublier tout ce qui t'emmerde et franchement bah voilà, c'est Coco Bingo. Quoi.
L'album il est déjà prêt, il y a tous les morceaux.
Il est tout prêt, il a plus qu'à.
Donc il y a Coloqué, C'est où Canudo. Voilà. Il y a aussi je crois Dancing in the Rain.
Dancing in the Rain qui
arrive. On te voit
là.
Justement sur Instagram en train de bidouiller un synthé pour composer ce morceau.
Peut-être, je sais, je t'avoue que j'ai fait pas mal de petites vidéos dernièrement, donc ouais, peut-être, oui, tout à fait, certes.
En tout cas, tu présentes un peu en ce moment aussi sur ton compte Instagram les coulisses de la préparation
de
cet album.
Ouais, voilà, bah il y a beaucoup, on a beaucoup de vidéos, on a pas mal documenté et filmé tout le process de l'album, donc il y aura pas mal de. Je vous invite à rejoindre mon réseau social sur Instagram ou TikTok pour voir tout ça, parce qu'il y a pas mal de trucs sympas qui vont arriver.
Le festival aussi, bientôt le 6 juin, ici sur le Val-d'Oise, à Nesle-la-Vallée, le Parc aux Étoiles. C'est la 5e édition, donc samedi, The Superman Lovers, avec quel type d'ambiance du coup est-ce qu'il y a une scénographie particulière ou pas quand tu fais des mix?
Alors en fait moi j'ai une politique, c'est que je sais pas vraiment le DJ set du live. J'ai fait beaucoup de live sur Superman Lovers, j'en ai fait pendant près de 20 ans. Où là vraiment pour moi c'est dans ces moments-là où il y a vraiment une scénographie qui s'impose, il y a quelque chose, un vrai spectacle. Le DJ set, je considère, c'est mon point de vue, que oui, c'est un show, mais le DJ set t'es aussi un peu au service des gens. Donc en fait moi j'aime bien quand un DJ set en fait il est pas focus sur moi et que quand je joue les gens ils sont focus sur eux-mêmes, que en fait ils s'aiment, qu'ils s'apprécient, qu'ils dansent eux, parce que DJ pour moi c'est ça. Après chacun voit, donc j'ai pas spécialement j'aime bien quand le show il se passe sur le dance floor et non pas sur la scène quand je suis DJ. Après live par contre, bah là tu proposes un spectacle, tu proposes quelque chose où justement c'est toi qui attire la lumière, donc là oui effectivement, et que genre tu joues que ta musique, DJ tu vas jouer bah 80% aussi la musique des autres. Donc voilà, les gens méritent aussi leur moment de gloire, et je pense que c'est bien de mettre le focus sur le dance floor et pas sur toi quand
tu connaissais un peu déjà le Val-d'Oise, le 95 ou pas du tout?
Alors moi vous savez que j'ai un de mes premiers jobs étudiant.
C'était ici, à Rogalé.
J'étais barman dans la pizzeria qui est à côté du lac.
C'est pas vrai. Ouais. Ah oui, d'accord. Elle existe toujours, la pizzeria, ou pas?
Je sais pas du tout.
Aucune idée.
Waouh, j'avais 18 ans.
T'avais 18 ans.
C'était il y a 5 ans.
Mais déjà, à l'époque, ce rêve de vouloir faire de la musique?
Toujours.
Oui.
Toujours. Ah oui, j'ai plus tout petit. Hein.
The Superman Lovers, donc en concert, en show le 6 juin au festival Le Parc aux Étoiles à Nesle-la-Vallée. Juste avant, il y a le Coco, le Café Chéri, pour présenter un petit peu Coco Bingo, donc le nouvel album qui sortira plutôt en octobre prochain. Donc ça, c'est une date parisienne dans un café assez cosy, le Café Chéri.
Ouais, Café Chéri. C'est un chouette endroit. Déjà, je voulais juste redire par rapport à quand je bossais, c'était pas une pizzeria, je crois. C'était à côté du lac. Non, mais le boss, le patron avait aussi une pizzeria, je sais plus où. J'avais bossé dans les deux restos, mais bon, j'étais minot.
Et le midi, il te ramenait de la pizza finalement.
Je sais pas si on avait de la pizza, mais en tout cas, je me rappelle que oui, c'était un resto normal ici. Et le boss avait aussi une pizzeria, je sais plus, je crois à la Garenne Colombe ou un truc comme ça.
Et donc le Coco Chéri, moi je vais y arriver. Coco Bingo, c'est l'album, et c'est pas Coco Chéri, c'est Café Chéri. Ça aurait pu s'appeler Coco Chéri.
Coco Chéri, ouais. Ou Chéri Bingo. Et le Café Bingo. Et donc le Café Chéri, c'est un super spot, en fait, que j'ai découvert et qu'en fait on a décidé avec la belle Poydor d'organiser des fêtes là-bas. Et ça se passe plutôt bien, l'ambiance elle est très très sympa. On organise un bingo d'ailleurs où il y a plein de trucs à gagner. Donc j'encourage tout le monde à venir. voilà, il y a plein de trucs, il y a des vinyles, il y a des CD, il y a même des vinyles rares que j'ai sortis il y a 25 ans, des éditions spéciales, des trucs. Voilà, donc il y a plein de trucs, c'est chouette, on fait la fête. Et là ça sera l'occasion de la sortie du nouveau single Dancing in the Rain qui arrivera le 19 juin.
Eh ben merci beaucoup. Le label du coup La Fessée n'existe plus, Guillaume.
Non, j'ai un nouveau label depuis 2013, donc qui s'appelle Word Up Records.
D'accord.
Voilà, et qui a repris tout le catalogue de mon ancien label et qui produit toutes les nouveautés Superman Lovers.
Eh ben bravo, merci encore de Superman Lovers en concert au Parc aux Étoiles, le festival le 6 juin à Nesle-la-Vallée pour présenter quelques morceaux du nouvel album Coco Bingo qui sortira en octobre prochain. Le premier extrait c'est Coloqué Seu Canudo qui est disponible un peu partout sur toutes les plateformes. Il y a le prochain donc Dancing in the Rain et puis là bon bah désolé, on va réécouter un peu Starlight, non?
Allons-y, hein.
Et qu'est-ce qu'on fait? On écoute la version originale ou on écoute la version avec One Republic?
Allez, One Republic.
Allez, c'est parti sur IDFM Radio. À bientôt.
Eh ben, salut.
Bonne journée.
Merci à vous, hein. Merci de votre hospitalité.
stop.